You have your Bibles with
si
you,
vous avez
please
votre Bible, vous pouvez ouvrir la Bible à la page du psaume 19.
We've been looking at David's greatest hits this summer.
Cet été, on a fait un petit tour des meilleures chansons de David.
David,
cet homme qui avait le cœur de Dieu, qui a commencé sa vie en tant que berger dans l'arrière-pays d'Israël, et Dieu l'a trouvé. A trouvé cet homme qui l'adorait et l'a rendu roi d'Israël. Et il nous a donné presque la moitié des psaumes dans ce livre des psaumes. Les psaumes sont réellement un trésor très riche. Seigneur, on prie que tu puisses ouvrir ce psaume à nos yeux et à notre cœur ce matin, que nous puissions voir de nouvelles choses, mais vraiment que nous puissions te voir de nouvelles manières. Seigneur, nous te glorifions aujourd'hui, au nom de Jésus.
Amen.
Psaume 19, c'est vraiment divisé, est vraiment un psaume divisé en trois parties. On va regarder chaque partie de manière individuelle. Ils sont bien sûr reliés les uns aux autres, ces parties, les unes aux autres. Et on commence au chapitre 19, verset 1. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles où l'on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Est-ce que vous n'imaginez pas juste David en train d'être assis dans les collines et regarde les brebis et tout d'un coup les étoiles sortent? Et il se dit, je vois Dieu reflété dans ces étoiles. Est-ce que vous n'imaginez pas David en train de regarder ces étoiles et être rempli d'émerveillement à ce qu'il voit? Combien peu il savait qu'il était en train de voir très peu de ce qu'il y a réellement à voir. Vous savez, maintenant, nous, quand on voit cette image, on reconnaît qu'au centre de l'image, il y a la Voie lactée, qui est la galaxie dans laquelle nous nous trouvons. Une galaxie dont le télescope Hubble
prend une photo d'une autre galaxie. A picture taken by the Hubble telescope
that is a galaxy very similar
to ours.
Cette galaxie-là ressemble beaucoup à la nôtre.
The immensity of what David could see would blow his mind if he realized just how big it was.
Bluffé, si on peut dire.
It is hard for us to understand the vastness.
Et c'est difficile pour nous de comprendre à quel comment est grand l'univers. J'ai pensé à une illustration. J'ai pensé à prendre un petit conteneur de sel, un récipient, et de mettre un peu de sel tout partout devant, comme illustration de notre galaxie, la Voie lactée, et chaque petit bout de sel qui représenterait nos étoiles. Sauf que j'ai réalisé plusieurs choses. Trois choses, plutôt. Premièrement, si je faisais ça, ça serait vraiment un peu le bazar ici devant. Deuxièmement, seulement les personnes des trois premières rangées pourraient l'apprécier. Et troisièmement, si je faisais cela vraiment à l'échelle réelle, d'essayer réellement de recréer juste notre galaxie, j'aurais besoin de 4 000 sachets de sel. Et j'aurais besoin de les étaler sur une surface la taille du orbit of the moon. La taille du rayon de l'orbite de la Lune. Et ça, ce serait juste notre galaxie. Je me souviens quand le télescope Hubble était nouveau. Je suis assez âgé pour me souvenir quand les scientifiques ont dit, avaient un peu de temps libre et ont décidé, juste pour s'amuser, d'enseigner au télescope. Ils ont mis le télescope juste sur un bout de ciel vide. Et quand ils ont regardé les images, ils étaient sans parole, sans mots, sans rien dire. Parce que ce qu'eux pensaient était un endroit vide, le télescope Hubble leur a montré qu'il y avait d'innombrables, pas des étoiles, mais d'innombrables galaxies. Les scientifiques aujourd'hui disent qu'il y a certainement 100 milliards de galaxies dans tout l'univers, qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages du monde entier. Paul nous dit dans Romains que les attributs de Dieu, que son pouvoir éternel et sa nature divine peuvent être vus clairement à travers sa création. Mais vous savez, de temps en temps, c'est un peu difficile d'imaginer combien est énorme l'espace. Alors allons plutôt dans le sens inverse et regardons plutôt une ville, par exemple Paris.
Paris est une
ville assez compliquée.
All sorts of traffic, libraries,
de musées, de bibliothèques, de plein de voitures, plein de choses qui sont en train d'être mangées, créées, toute la police qui est là, toutes les technologies dans cette ville.
Mais
si vous preniez juste une petite cellule de votre corps et que vous l'agrandissiez à la taille de Paris, vous serez surpris de voir ce qui s'y passe aussi. Votre ADN, c'est vraiment une bibliothèque, si on veut. C'est un manuel d'instruction qui serait des kilomètres et des kilomètres de long. Il y a des systèmes de transportation, il y a des industries qui fabriquent des choses. Il y a aussi dans vos cellules des équivalents de la police ou des poubelles. Tout ça qui se passe dans juste une cellule de votre corps. Alors bien sûr, il y a une différence entre la ville de Paris et une seule cellule de votre corps. La ville de Paris ne peut pas se reproduire elle-même en quelques heures. Mais les cellules de votre corps, oui, elles se reproduisent continuellement. C'est incroyable quand on y pense. Les choses que Dieu a créées dans cet univers pour déclarer qui il est.
Now, I have a hard time getting my little head around.
Non, j'ai parfois un peu de mal à juste comprendre la grandeur de l'univers ou la petitesse d'une cellule. Mais prenons juste alors juste un grain de seigle. On en fait du pain, par exemple.
Not an uncommon thing.
C'est pas quelque chose de hors du commun.
God's eternal nature, God's eternal power, his divine nature clearly seen.
La nature divine.
Take a single seed.
La grandeur de sa puissance est vue aussi dans cette petite semence.
Simple enough.
Vous pouvez prendre juste une toute petite graine de seigle, mais en un été, cette petite semence aura 14 millions de racines. Sur chaque racine, il y aura 14 milliards de petits poils. Et si on pouvait calculer de bout à bout chaque racine, bout à bout, on les mettait toutes bout à bout, il y aurait 600 kilomètres de racines pour une seule petite graine de seigle. C'est incroyable ce que Dieu a fait pour démontrer sa puissance, pour démontrer et montrer ce qu'il peut faire. Quand Dieu a dit que la lumière soit, quand Dieu a décidé de former les étoiles, pourquoi est-ce que nous pensons qu'un Dieu infini pourrait... Pourquoi est-ce qu'il créerait un nombre fini d'étoiles? Et là, il est en train de se dire, je vais les émerveiller, je vais mettre toutes ces étoiles et vous regardez et vous se dire, wow, qu'est-ce que c'est beau, toutes ces étoiles!
And thousands of years are going to go by.
Il y aura des milliers d'années qui passeront et ils vont inventer un télescope et ils vont voir qu'il y en a encore plus. Et après, ils vont inventer un télescope Hubble et ils vont vraiment plus rien y comprendre. Il y a des galaxies et des galaxies et des galaxies, toutes en train de déclarer la gloire, de Dieu.
The Book of Romans.
Le livre de Romains, chapitre 1, verset 19, dit que ce qui peut être connu de Dieu est visible pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de nous le révéler. Ses attributs divins, et particulièrement sa puissance divine et sa nature divine, ont été perçus depuis le début et la création du monde.
So men are without excuse.
Alors les hommes sont sans excuse. Ceux qui disent qu'ils ne connaissent rien de Dieu. Le psalmiste nous dit que la création chante la gloire de Dieu de manière continue, qu'elle déclare qui il est. D'une manière qui ne requiert pas la parole, d'une manière qui ne demande pas une communication humaine, d'une manière que toute personne peut comprendre. C'est presque comme la musique. Tout le monde l'entend et elle déclare la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes ouverts à voir réellement cette gloire? Un des problèmes en tant que personne déchue, c'est que nous avons l'habitude, nous prenons l'habitude des choses autour de nous. Elles ne nous amènent plus de joie. Les choses autour de nous deviennent automatiques et on est plus émerveillé. Et peut-être qu'on devrait prier, Seigneur, aide-moi à voir, aide-moi à être émerveillé devant ce que tu as créé. Sur mon blog, il y a quelques mois, j'ai parlé de mon ami qui est venu il y a quelques mois et tout ce qu'il voyait, il était émerveillé, tout ce qu'il voyait autour de lui.
Ce
serait vraiment un don, un cadeau de voir Dieu en tout.
David
continue dans le verset 7. Il dit,
Nature declares the glory of God. The creation resounds with his name. But then he moves in verse 7.
Dans le verset 7, il parle de la loi. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande.
David begins to extol the
virtues of the scriptures that you're holding in your hands. Les vertus des écritures que vous tenez en main. Il dit que
sweeter than honey,
que la parole de Dieu est plus douce que le miel. Elles sont à désirer, les écritures sont à désirer encore plus que l'on désire de l'or très fin. Aux États-Unis, cette dernière semaine qui est passée, quelqu'un a gagné le plus grand loto de toute l'histoire du loto aux États-Unis. Après les impôts, ils ont ramené
366
millions de dollars. Voilà, un tout petit bout de papier. Ils ont mis leur numéro et tout d'un coup, elle se rend compte que ce petit bout de papier vaut 366 millions de dollars. Une petite question pour vous. Vous avez un choix. Les Écritures
or that lottery ticket.
Ou ce petit bout de papier de loto qui vaut 366 millions.
You can have the lottery ticket.
Vous pouvez avoir le
you can no longer have the scriptures.
Vous pouvez avoir le billet de loto, mais vous n'avez plus le droit d'avoir la Bible. Lequel choisirez-vous?
Which is more valuable?
Lequel a plus de valeur pour vous?
Which has more power?
Lequel a plus de pouvoir? Lequel a la possibilité de rendre meilleure votre vie? Ce billet de loto ou la parole de Dieu? Et là, David nous dit que c'est les Écritures. David nous dit que c'est les Écritures qui valent bien mieux. Ils sont à désirer au plus haut point. Est-ce que cet argent peut raviver votre âme? Non. Peut-être que ça vous donnera des belles vacances, mais elle ne peut pas raviver votre âme. Est-ce que l'argent peut rendre celui qui est simple sage? Non. Est-ce qu'elle peut causer la profondeur de votre cœur de se réjouir? Pas vraiment. Peut-être qu'elle peut vous acheter quelque chose qui, sur un certain moment, va vous faire très plaisir. Est-ce que cet argent peut rallumer votre vue? Non. David nous dit que les Écritures, c'est la parole de Dieu, est beaucoup plus précieuse que ce petit bout de papier de loto. Les Écritures sont plus douces que le miel.
All right. How many of you would agree with David?
Combien d'entre vous êtes d'accord avec David?
How many of you
combien d'entre vous ont du mal à accepter ce qu'il dit parce que vraiment, les Écritures
kind of boring sometimes.
Vous ennuient un peu de temps en temps?
How many of you say
combien d'entre vous vous disent plus doux que le miel? Parfois, je lis les Écritures et j'ai l'impression de manger de l'herbe. C'est pas doux, c'est pas bon. Tout est plus intéressant que la parole de Dieu. Il y a trois personnes honnêtes ici parmi nous. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment-là? Premièrement, je crois qu'on a besoin d'admettre que les paroles sur une page souvent ne nous permettent pas d'être excités ou émerveillés par les choses. Deuxièmement, il faut que l'on amène cela dans la prière, de se rendre compte que David nous dit quelque chose sur la parole de Dieu et que nous, on ne ressent pas sur le moment. De nous dire, Seigneur, ton disciple, tes disciples ont dit, mais vers qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, toi-même, tu as dit que tu vis basé sur tout ce qui sort de la bouche de Dieu le Père. Seigneur, là, maintenant, je ne ressens pas du tout cela. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est de travers avec ta parole, mais c'est quelque chose qui va de travers en mon cœur, en moi. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir mes yeux. Le psaume 119 est un psaume super à lire et sur lequel méditer. Le psaume 119, verset 18, dit ceci. Ouvre mes yeux, que je puisse contempler les choses magnifiques de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir les choses magnifiques de tes paroles. Combien de temps, Seigneur, est-ce que j'ai juste oublié de prier cela et après je n'ai rien vu? Mais combien d'autres fois est-ce que j'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux, et j'ai commencé à lire sa parole, et tout d'un coup, elle devient comme le miel pour moi. Elle commence à émerveiller mes yeux, à raviver mon âme, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait que les paroles de cette page prennent vie. Et c'est vrai qu'elle le fait. La parole de Dieu est inspirée par lui et est pour notre bien. C'est notre nourriture spirituelle et nous avons besoin de la prendre et de nous en nourrir. Et dans cette nourriture, de voir la gloire de Dieu.
The psalmist goes on.
Le psalmiste continue.
In verse 12.
Dans le verset 12, il dit ceci.
He's reflecting on the fact.
Il est en train de réfléchir sur le fait que les cieux racontent la gloire de Dieu, que toute la création révèle de plus en plus de qui est Dieu, de la nature de Dieu. Il médite sur le fait que les paroles de Dieu nous ont été données et qu'elles sont vraiment un délice pour nous, une protection pour nous. Elles nous donnent de la sagesse, elles nous protègent, elles nous enseignent. Il médite là-dessus et au verset 12, il dit ceci. Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi pour celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Le créateur de l'univers. Ses empreintes sont sur tout ce que nous voyons. Il nous a donné sa parole pour nous guider et nous instruire. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous l'écoutons? Voici une question pour vous. Certains d'entre vous connaissent assez bien la Bible. Les gens d'Israël, le peuple d'Israël, sont sortis d'Égypte. Nous aimons l'histoire. Ils ont été délivrés. Toutes les plaies, et le fait de sortir à travers la mer Rouge, on aime cette histoire. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que cette génération-là entre dans la terre promise ? Oui, j'entends que oui.
Wrong answer.
Mauvaise réponse.
Right answer.
La bonne réponse, c'est ça dépend.
It depends.
Ça dépend.
You remember the story,
vous vous souvenez de l'histoire, non? Vous pouvez, lire dans le livre des Nombres si vous n'en souvenez pas.
They sent spies
le récit, ils ont envoyé des espions dans la terre promise et il y a eu plusieurs espions ont dit « c'est pas possible, on ne va jamais y arriver, on ne pourra pas rentrer ». Et les gens ont cru ces espions qui ont dit que c'était trop difficile. Et Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit, cette génération ne verra pas la terre promise. D'accord ? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que cette génération-là entre dans la terre promise ? Ben, ça dépend. Est-ce que c'était avant ou après ? Avant ou après les espions ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le peuple, quand ils ont entendu Dieu dire « Vous n'irez pas à la terre promise, vous allez vous balader pendant 40 ans dans le désert », ils se sont dit « Ah non, on s'est trompé !»« Si, on veut aller rentrer dans la terre promise !» Et ils ont essayé d'entrer dans la terre promise d'eux-mêmes. Et le mot utilisé là est « de manière orgueilleuse ». Ils ont essayé d'entrer dans la terre promise sur leur propre force et ils ont été devant une défaite énorme parce que ce n'était plus la volonté de Dieu pour eux qu'ils rentrent dans cette terre promise mais plutôt qu'ils se baladent pendant 40 ans dans le désert avec des chaussures qui n'ont jamais été usées. Ils avaient le Deliveroo de l'époque tous les jours avec la manne. Et c'était la volonté de Dieu qu'ils vivent pendant 40 ans dans le désert. Mais ils ont cru dans leur orgueil que eux savaient mieux que ce que Dieu avait dit. Et c'est ça la racine de tout péché. Allez, retournez en arrière jusqu'au jardin d'Éden. Vous pouvez manger, Dieu dit, vous pouvez manger de n'importe quel arbre, sauf celui-ci. Et Adam et Ève ont écouté l'ennemi. Mais non, Dieu, il ne sait pas de quoi il parle. Nous, on sait mieux que ce que dit Dieu. Alors, on va prendre ce fruit. Dieu dit, ne parle pas en mentant. Oh, un petit mensonge blanc, ça ne va rien faire, ça fait de mal à personne. On pense, oh, mais Dieu a toujours, Dieu veut que je reçoive le boulot qui paye mieux. C'est vrai, c'est ça qu'il veut Dieu pour toi?
Non.
Pas forcément. Parfois, il veut que tu aies le travail qui a un salaire plus petit. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu suis sa volonté pour toi ou pas? Ou bien est-ce que tu penses, est-ce que tu imagines que tu peux faire la vie sans sa révélation? Est-ce que tu penses croire que tu peux ignorer le Créateur? Est-ce que vous pensez que vous arriverez à vivre votre vie sans sa parole? Est-ce que vous croyez réellement que vous pouvez vivre votre vie sans relation avec Dieu? Je pleurais hier soir, j'avais les larmes aux yeux. C'était vendredi. On avait une petite fête d'au revoir pour Ben et Jacqueline. Et Ben demandait aux ados, qu'est-ce que Dieu vous a appris?
Et
Tiffany, où est Tiffany?
She's right there. She shared something.
Elle a partagé quelque chose et moi, j'avais les larmes qui sont montées aux yeux pendant qu'elle... Elle partageait ce qu'elle était en train d'apprendre. Vous savez, tellement de fois, je prends la Bible et Et c'est devenu vraiment comme un livre du lycée où j'essaye d'apprendre quelque chose de nouveau. Et Dieu me montre récemment que ce n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est plutôt avec... Cette Bible, elle est là pour développer ma relation avec lui. Et quand j'ouvre cette Bible, ce n'est pas pour apprendre quelque chose, un nouveau fait de ce qui s'est passé à droite, à gauche, mais c'est de le connaître mieux, lui. Et c'est exactement ce que dit la Bible, que ce n'est pas... Le but, ce n'est pas d'apprendre des choses, mais plutôt d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître Dieu. Frères et sœurs, si vous pensez que vous pouvez vivre votre vie sans connaître Dieu, vous avez tort. Vous êtes comme les personnes qui... dans le temps, croyait que le monde était plat. C'est à ce point-là que vous avez tort. Parce que vous avez été créé pour être en relation avec votre créateur, avec votre créateur. Et si vous pensez que vous pouvez vivre sans cela, je vais vous appeler ce que la Bible vous appelle. Vous êtes bête. Mais aujourd'hui, la manière, le fait de pouvoir entrer en relation avec lui la manière d'entrer en relation avec lui est claire, c'est à travers ce que Jésus a fait pour toi. Et alors je vous invite à mettre de côté vos présomptions et entrer en relation avec Jésus. Prions.
Your word is so good. Oh, it is so rich. Oh, Lord.
Père, ta parole est si riche. Et pourtant, nous l'ignorons. On essaye de faire notre vie sans y penser. On présume que l'on peut naviguer à travers ce monde sans toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, que tu puisses amener les pécheurs à la repentance. Que tu puisses amener ceux qui t'ont oublié de raviver leur désir de te suivre. Et je prie que, alors que nous partons de cet endroit, que tu puisses ouvrir nos yeux pour voir ta puissance éternelle et ta nature divine reflétée dans la création tout autour de nous. Seigneur, je prie que cette semaine, alors que nous ouvrons ta parole, que ce soit comme une caisse de trésors remplie de pierres précieuses, de rubis, de diamants, d'émeraudes, et que nous puissions prendre chaque pierre et que nous puissions être émerveillés devant la richesse de ce que tu nous as donné. Seigneur, que nous puissions ne jamais oublier que tu es là. Et tu n'es pas silencieux. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que ton esprit nous dit. Au nom de Jésus. Amen.